Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse, chapitre 7. Genèse, chapitre 7, les versets 1 à 24. Genèse, chapitre 7, versets 1 à 24. On va regarder tout le chapitre. Je regardais hier à combien de leçons je t'ai rendu pour finir le chapitre 7. On est rendu à 23 leçons. On a juste 7 chapitres de fait. Alors, on voit que même y aller chapitre par chapitre, c'est beaucoup. Mais à un moment donné, si on ne veut pas rester 10 ans dans Genèse, il faut avancer quelque part. Donc aujourd'hui, on va faire le chapitre complet. Mais je trouve que c'est comme une unité qu'on ne peut presque pas couper. On parle du déluge. Alors, quand le Seigneur a décidé d'exécuter sa parole qui avait fait que ça arriverait, et là, on est rendu au moment où le Seigneur exécute sa parole. Alors, chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. » Alors, juste une remarque en passant, on est en train de lire. On va lire le chapitre, essayer de remarquer les numéros, les chiffres que le Seigneur donne dans tout le chapitre 7. Il y a beaucoup de chiffres, et c'est tout significatif. Et là, on vient de voir ces jours, on a parlé de 40 jours, 40 nuits, les 7 et ce jour-là. Et verset 5, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cam et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair ayant souffle de vie. Il entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la surface de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Voyez-vous le nombre de numéros qu'on lit là-dedans? On ne porte pas nécessairement attention, mais c'est tout hautement significatif quand on regarde l'usage que le Seigneur fait de ces chiffres-là ailleurs. Ce n'est que là qu'on voit quelle intention qu'il y a en arrière de l'utilisation de certains chiffres. Donc, on va voir en développant tout cela qu'il y a des choses très intéressantes que le Seigneur nous montre à travers de tout cela. J'ai intitulé le sermon d'aujourd'hui « Le cataclysme du déluge universel est exécuté ». On avait vu dans le chapitre précédent que le Seigneur avait dit « Construis un arche », avait donné les dimensions, il avait dit « Parce que je me propose de détruire toute la terre ». On sait qu'il s'était fort probablement passé, si on accepte l'interprétation que Genèse 6-3, le 120 ans, que le déluge était pour arriver 120 ans après l'avertissement. Alors, ça l'aurait pris 120 ans à Noé, sa famille, de construire l'arche. On a vu la semaine dernière sur le petit diapositive qu'on a regardé, le gigantisme du bateau qui est en train de construire l'arche de Noé. Alors, ça nous donne une idée qu'il avait dû travailler très fort. Au bout de 120 ans, on voit le Seigneur intervenir. C'est le Seigneur lui-même qui intervient. C'est pas Noé qui décide, « Bon, mon arche est finie, je vais rentrer dedans, puis là... » C'est le Seigneur qui intervient à un moment précis. Et il lui dit, et j'avais jamais remarqué ça, et c'est un commentateur qui m'a fait voir ça, j'ai trouvé ça fantastique. Il dit, « Remarque que le Seigneur ne dit pas à Noé, « Va-t'en dans l'arche, entre dans l'arche. » C'est vraiment une invitation où il lui laisse sous-entendre qu'il va être présent avec lui dans l'arche. C'est pas comme « va », puis moi je suis pas là, « entre ». Alors comme un peu comme quand on est en Christ, on entre en Christ. J'ai trouvé ça vraiment assez exceptionnel. Alors pourquoi j'ai intitulé le sermon « Le cataclysme du déluge universel » J'ai pas mis le mot « universel » dans le titre par hasard. Parce que certains interprètent Genèse 7 comme étant un déluge régional, mais le texte n'enseigne pas ça. Le texte enseigne définitivement un cataclysme universel qui a détruit tout ce qui vivait sur la terre, tout ce qu'il y avait de tout ce qui respirait par les narines qu'on a vu tantôt, et que ça a monté 15 coudées au-dessus des plus hautes montagnes. Quand on lit le texte, notre première compréhension est vraiment celle qui est correcte pour l'interpréter, c'est vraiment le Seigneur a permis qu'il y ait une catastrophe tellement gigantesque que ça a détruit toute la terre, toute la vie sur la terre, les animaux, excepté les 8 qui sont rentrés dans l'arche. Et ici, on voit le Seigneur intervenir à un moment précis et dire à Noé qu'il laisse encore 7 jours. Ça aussi, c'est assez spécial que même après qu'il lui dit « entre dans l'arche », il dit « dans 7 jours, je vais partir ». Alors, c'est comme s'il y avait encore une chance de laisser rentrer du monde, mais car on sait que quand les personnes, on les aurait bouchées, il n'y a rien à faire. Alors, le cataclysme, on peut se demander, on entend souvent cette expression-là, des fois dans les nouvelles, un cataclysme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais aller voir dans un dictionnaire. Ben vous utilisez des mots, il faut savoir ce qu'ils veulent dire. Le mot cataclysme, ça vient du grec katakloudzen. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire inonder. Des fois, on parle d'une inondation. Ici, je pense qu'au Québec, on n'a pas vu vraiment beaucoup d'inondations. Il y a certains endroits qui n'ont vu. C'est régional, mais c'est rare que c'est une inondation d'une ampleur tellement grande que c'est la terre complète qui va être couverte d'eau jusqu'à monter 15 coudées plus haut que les montagnes. Le mot cataclysme veut dire inondé. Alors, bien entendu, ça réfère à un bouleversement de la surface de la Terre par une catastrophe. Normalement, quand on parle d'un cataclysme, c'est soit une inondation, soit un tremblement de terre, ou d'autres phénomènes météorologiques, un peu comme il y a eu à Haïti. Ça a été terrible. Mais c'était quand même local. Si on trouve ça terrible à Haïti, ce qui s'est passé, ça n'a rien de comparable avec le cataclysme ici qui était envoyé par Dieu lui-même. Alors ici, on parle d'un cataclysme et c'est vraiment approprié d'utiliser le terme parce que c'est unique dans l'histoire de l'humanité et c'est d'un gigantisme qu'on... Même aujourd'hui, on a de la misère à saisir. Ça prend de l'eau, pas à peu près, pour faire ça. Là. Donc, c'est une ampleur d'une catastrophe universelle. Quand on parle des cataclysmes, comme celui qui est arrivé à Haïti, on parle de quelque chose de local, on parle de quelque chose d'un pays. Mais là, ici, on parle de quelque chose qui est universel. Tout ce qu'il y avait vie sur la Terre, c'est gros, là. On n'a pas d'idée jusqu'à quel point c'est gros. Et ça n'a rien de comparable avec tous les phénomènes naturels qu'on peut avoir entendu parler aujourd'hui qui se passent sur la Terre et qu'on qualifie de cataclysme. Mais comparé à celui de la Genèse, ça n'a absolument rien à voir. Ce qui est intéressant, on voit Dieu qui parle, qui a parlé, qui avertit que c'était pour se passer, et on voit l'exécution de la parole de Dieu arriver. Maintenant, on peut se dire, à partir du texte de celui de la Genèse 7, est-ce qu'on peut appliquer cela dans nos vies aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur a fait d'autres avertissements comme ça aux hommes dans le Nouveau Testament? Oui, parce que quand il a dit qu'il détruirait la terre, il dit « Comme j'ai détruit la terre par l'eau dans l'Ancien Testament, maintenant, la prochaine destruction globale qui va arriver, ça va être par le feu. » On le lit dans 2 Pierre, chapitre 3, on le lira tantôt, mais une autre chose que je voudrais vous faire part avant, c'est que quand le Seigneur parle, il exécute toujours ce qu'il a dit. Je ne sais pas combien de fois ça m'est arrivé, je lisais la Bible, et là, tu arrives, il a dit quoi, disons, je ne sais pas moi, dans la Genèse ou dans l'Exode, tu es rendu 7-8 livres plus loin, et là, le Seigneur, il permet quelque chose, mais qui a un rapport avec ce qui a été dit 7-8 livres avant. Toi, tu t'en souviens pas, là. Mais le Seigneur, il se souvient de tout ce qu'il a dit, il se souvient de tous les avertissements qu'il fait, de toutes les menaces qu'il fait, ces choses-là. Ça, c'est un des principes fondamentaux, si on veut bien comprendre le texte. Il avait dit quelque chose, exécution. Maintenant, un des passages pour parler de la fidélité du Seigneur à accomplir ses avertissements, c'est Jérémie, chapitre 1, les versets 11 et 12. « Et la parole de l'Éternel me fut adressée en disant, « Que vois-tu, Jérémie? » Et je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Autant le Seigneur avait averti Noé construire l'arche, il a obéi, autant Abraham avait prêché autour de lui que ça s'en venait, sans que les hommes en tiennent compte. Mais ce qu'il faut faire le parallèle pour nos propres vies, c'est que le Seigneur fait encore des avertissements aux hommes concernant la future destruction de la terre et que ça va être, dans le fond, je pense que c'est peut-être encore plus terrible que par l'eau, le feu. On le voit, là, dans l'Ouest, on a des choses... On voit les gens, les routes qui sont... C'est comme des murs de feu chaque côté d'eux autres. Les gens qui sont pris là-dedans, là, ils doivent carrément paniquer. T'as le feu tout partout, puis il n'y avait plus moyen de sortir de là-dedans. Ça devait être quelque chose. En tout cas, mais là, la Bible nous dit que à la fin des temps, dans 2 Pierre, le chapitre 3, les versets 3 à 7, ça nous dit, « Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, il parle de quand? Il parle de nous autres maintenant. Dans les derniers, on sait, on est dans les derniers jours. Qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise et qui diront, où est la promesse de son avènement? L'avènement, c'est le retour. Autrement dit, il est en train de dire, le gens vont dire, ouais, il a promis qu'il reviendrait, mais hey, il a dit ça il y a 2000 ans, c'est comme, okay, on ne bode pas avec ça, on s'occupe pas de ça. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, toute chose demeure comme depuis le commencement de la création. Et comme les hommes se bercent d'illusions en disant, ça fait 2000 ans que c'est le même, ça va continuer de même, puis ils pensent pas que le Seigneur veille sur l'exécution de sa parole. Dans le verset 5, il dit, car ils ignorent volontairement, c'est un mot clé dans la compréhension du texte, ils ignorent volontairement. Tu peux ignorer quelque chose, mais c'est comme de l'ignorance, tu ne savais pas. Mais ignorer volontairement, c'est autre chose, parce que tu sais, mais tu dois. Tu ne veux pas le voir, autrement dit. Car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, aussi bien que la terre tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau, et que ce fut par ces choses que le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Or, les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole et réservés pour le feu au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Alors, autant le Seigneur a accompli, qu'on voit qu'il a accompli sa parole dans le chapitre 7, autant ce qu'il fait puis qu'il dit que ça va arriver plus tard, au dernier jour, par le feu, ça va aussi s'accomplir. Alors, je pense que le chapitre 7 de Genèse est un excellent chapitre pour nous inspirer de l'obéissance de Noé. Alors, il a entendu Dieu parler, il a cru à Dieu, il s'est mis à l'œuvre et il a travaillé très certainement extrêmement fort pour tout construire ça. Alors, il fallait de la foi. Puis, quand ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu construis, tu te dis, ça va être long, ça, cette affaire-là. Tu es rendu à 60, 70, 80, 90 ans. Ça fait 100 ans que tu construis, puis tu continues. Il faut que tu aies de la foi. Et il faut que tu en aies beaucoup. Alors, il avait cru Dieu, il avait continué à construire, et maintenant, le jour est arrivé. C'est comme le jour J, qu'on dit. Le jour J arrive. Alors, c'est vraiment, les versets 1 à 9, je le vois comme la préparation au cataclysme. Il y a un cataclysme, et c'est comme Dieu est en train de préparer son serviteur, sa famille, à ce qui va se passer. Et on voit que, dans le verset 1, que c'est vraiment une préparation qui est miséricordieuse. Genèse 7, 1, l'Éternel dit à Noé. Alors, le verbe « dire », ça veut dire qu'il y a eu fort probablement quelque chose d'audible. Si tu dis à quelqu'un, c'est parce que la voix est sortie, il l'a entendu, on ne peut pas savoir de quelle façon exactement, mais « dis à Noé, entre toi et ta maison, dans l'arche. » J'ai vraiment trouvé ça quand il a dit, il n'a pas dit « vas-y dans l'arche », il a dit « entre ». C'est comme si tu es dans ta maison, chez vous, quelqu'un cogne à la porte, tu dis « entre ». C'est comme une invitation d'entrer dans la maison que le Seigneur a préparée et ça l'indique que Dieu veut dire à son serviteur qu'il va être présent durant tout le temps de son voyage. Et on se souvient-tu des chiffres? Combien de temps que le dernier verset nous dit? 150 jours. Mais on a vu la semaine dernière, c'est pour ça que je trouve ça intéressant parce que la semaine dernière, on a vu qu'il y a des auteurs qui ont fait des calculs, ils ont dit combien de temps Noé est resté dans l'arche, et on est arrivé à la conclusion que c'était 371 jours. Alors moi, je me pose toujours la question, « Ouais, mais comment tu as fait pour trouver ça? » Chapitre et verset, comme on dit. Et là, on vient de trouver une indication temporelle, 150 jours. Et on va voir un petit peu plus tard, quand le bateau va arriver sur le sommet du mont Ararat, on va voir d'autres chiffres que j'ai trouvés littéralement. C'est de l'adoration, parce que tu découvres ça, tu dis, ça se peut pas. C'est tellement extraordinaire. Mais je vous le dis pas tout de suite. Alors, ce qu'on voit là-dedans, c'est que l'homme pieux n'a pas à prendre des initiatives. Il n'a pas dit, ben là, OK, c'est construit, j'ai fini. Il attend la directive divine. On a-tu une leçon à apprendre, nous, là? Très grande. Il n'a qu'à obéir et à attendre les directives divines. Noé ne rentre pas dans l'arche de lui-même. Dieu prend l'initiative de lui indiquer le moment de le faire. On constate par ça l'amour tendre et plein de grâce du Seigneur. Le Seigneur a dit, tu as bien travaillé, voici le jour. Tu entres dans l'arche. Alors, la phrase « entre toi et ta famille dans l'arche » est significative. Dieu ne dit pas « va », mais il dit « entre ». Le verbe « entre » démontre que Dieu sera présent avec lui dans l'arche et que celui-ci sera davantage, l'arche va devenir davantage qu'un refuge, plus qu'un refuge. Pourquoi plus qu'un refuge? Parce que Dieu est dedans avec lui. Alors, il lui laisse entendre qu'il sera présent. Et même si c'était du bois, et si c'était bien rustique, pour Noé, ça devenait un palais. Parce que quand Dieu est là, peu importe l'aspect de la bâtisse, t'es dans un palais. Et le Seigneur lui donne la raison de son invitation, car je t'ai vu juste devant moi. Est-ce que selon vous, ça fait référence au fait que Noé vivait une vie sainte, d'obéissance à la Bible, d'obéissance à la parole de Dieu, ou si ça fait référence à plus que ça? Ça fait référence au fait que oui, il vivait une vie sainte, mais ça fait référence à plus que ça. Parce que quand Dieu considère une personne juste, c'est une déclaration divine, il la déclare juste, mais sur la base de quelque chose. Sur la base de la foi que Noé avait au Messie à venir. Les gens de l'Ancien Testament qui sont déclarés justes, qui sont des saints, sont déclarés justes sur la foi de leur foi à venir, parce que Christ n'était pas venu encore, mais ils croyaient qu'il était pour venir. Alors que nous, on croit au Christ venu. Mais le fait que Dieu dit qu'il est juste, c'est parce que il avait la foi au Messie à venir et que Dieu le déclare juste. Et à partir du moment que tu es juste, tu vis une vie sanctifiée en écoutant la parole de Dieu et en voulant l'exécuter, en voulant lui obéir. Très important de faire la distinction entre les deux, là. C'est pas juste parce que Noé était un bon gars et faisait mieux que les autres. Il était pécheur lui aussi. Mais il croyait au Messie à venir, donc la déclaration de justice de lui, sa femme, ses trois fils et ses trois femmes, c'est toute la même base, à cause de la foi au Christ. Alors ici, bien entendu, le Seigneur fait aussi un contraste entre la moralité qui régnait autour de lui, qui était la pourriture totale, les hommes étaient rendus corrompus, violents, et lui... Bien sûr, quand on vit dans un milieu où tout est corrompu au milieu de nous, autour de nous, ça peut être difficile de vivre la sanctification. Parce que tout ce que tu vois autour de toi, c'est juste de la corruption. Mais ça démontre aussi une autre leçon dans ce chapitre-là. C'est que c'est possible pour nous, même dans un environnement social pourri, de continuer, nous, à vivre selon les principes divins. Ça, c'est intéressant de voir ça dans le texte. Et dans le verset 2 et 3, on voit que c'est une préparation qui est non seulement miséricordieuse, comme on a vu au verset 1, mais que c'est une préparation qui est généreuse. Verset 2 et 3, lorsqu'il lui dit « Tu prendras avec toi de tous les animaux purs. » Voyez-vous, avant, il avait parlé juste d'une paire. Et là, ici, au chapitre 7, il y a comme un développement de l'idée. Là, il rajoute les animaux purs, et ceux-là, au lieu de rentrer juste un couple de chacun, il dit, pour les animaux purs, tu vas en faire rentrer 7 couples. Alors, là, c'est vrai, on ne s'arrête pas nécessairement. Premièrement, il y a le chiffre 7, qui, dans les Écritures, normalement, est toujours rattaché avec l'idée de la perfection. 7 paires de chaque espèce, mais des animaux purs, le mâle et la femelle, mais des bêtes qui ne sont pas pures, donc des bêtes impures, juste un couple. Pourquoi il lui dit ça? C'est-tu déjà arrêté à penser à ça? Pourquoi? Les 7 couples des purs, puis juste un couple des pas purs. Alors, pour la simple et bonne raison que Dieu prévoit les besoins futurs de Noé. Les besoins futurs, dans quoi? Les animaux purs qui vont être utiles pour l'utilité humaine. Tous les animaux qui peuvent amener quelque chose à l'homme. Par exemple, je ne sais pas, aider le travail des bœufs, c'est un animal pur, les Écritures. Un bœuf, ça peut aider, ça a énormément aidé les hommes à labourer la terre. Les bœufs, ça l'a servi à nourrir les hommes. S'il n'avait eu juste un, il n'aurait pas été capable de faire des sacrifices. Et Dieu voulait des sacrifices animaux dans l'Ancien Testament. Et pourquoi? Parce que, pas parce que Dieu se contente d'un sacrifice d'animal pour satisfaire pour le péché, mais parce que ça pointait, ça symbolisait l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, ça sert, les animaux purs servent à plusieurs choses. L'aide au travail, un cheval, par exemple, est un animal pur. Et tant que les tracteurs ne sont pas arrivés, là, l'aide au travail, les bœufs, à l'époque, là, c'était les bœufs puis les chevaux qui faisaient le travail dur. Ça aidait pour la nourriture. On sait, on en mange encore du bœuf. Et le vêtement. Parce que quand tu tuais l'animal, tu prenais la peau et il servait de la peau comme vêtement. Autre chose, s'il y avait eu juste un couple des animaux purs qui aurait rentré, Noé n'aurait pas pu offrir des sacrifices. Le système sacrificiel existait déjà. La preuve qu'il existait déjà, c'est que, ben avant Abraham, parce que lui était avant Abraham. Ouais, les enfants d'Adam. Caïn et Abel. Alors, le système sacrificiel, déjà, les gens étaient habitués avec, ils connaissaient. Et la raison pour laquelle Dieu permet aux animaux purs de rentrer par cette coupe, c'était d'abord pour l'utilité humaine et aussi pour permettre la perpétuité du système sacrificiel. On lit ça? N'as-tu que vous autres qui avez lu ça, vous avez tout de suite compris ça? On lit, mais on lit tellement superficiellement, on lit, mais on ne comprend pas. On voit des choses, mais on ne se pose pas de questions. Ce qui nous aide à comprendre un texte, c'est quand on s'arrête. Ouais, pourquoi cette coupe d'animal pur? C'est quoi un animal pur? C'est quoi un animal impur? On ne questionne pas le texte, donc on n'a pas de réponse. On fait juste le lire. On glisse dessus et on ne comprend pas nécessairement. Alors, c'est vraiment l'utilisation du chiffre 7 là-dedans. L'ancien verset-là nous parle de perfection et de plénitude. En général, le chiffre 7 parle de cette idée-là de perfection et c'est le chiffre divin. On sait que 6 est le chiffre de l'homme, 7 est le chiffre de Dieu. Et c'est une préparation qui est révélatrice, encore une fois, dans Genèse chapitre 7, verset 4. « Car encore 7 jours, comme on dit, d'y rentre dans l'arche, parce que dans 7 jours, ça va commencer. » Il dit, dans 7 jours, et là, c'est le Seigneur qui parle, « Je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. » C'est vraiment l'initiative de Dieu qui est en train de lui dire ce qui va se passer dans très peu de temps. Si le Seigneur nous dirait, il y aurait un ange dehors, puis le Seigneur nous dirait dans ces jours, entre, moi je pense que je n'attendrai pas à la veille que ça va arriver, je rentrerai tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit la bonté de Dieu de révéler des choses secrètes à son serviteur. Tous les êtres humains qui étaient vivants à l'époque, il n'y a pas un qui savait ça. Excepté Noé, sa femme, ses enfants. Pas ses trois fils et leur femme. Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs. Et ça, on a ça dans Amos, chapitre 3, verset 7. « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » On voit la bonté de Dieu dans ce verset-là. On voit l'omnipotence de Dieu, sa puissance. Vous essayerez ça, à un moment donné, sortir dehors, puis dire « Pluie, tombe! » Moi, ça va arriver. Si vous êtes capable, vous me le direz, j'irai voir ça. On n'est pas capable de commander à la nature. Mais Dieu dit « Je ferai pleuvoir. » Quand lui décide que ça pleut, ça pleut. Et il y a la souveraineté de Dieu aussi sur la durée de vie des événements. La durée des choses, et il lui dit 40 jours, il va pleuvoir. Alors, il lui dit encore, et une autre affaire intéressante, 40. Pourquoi l'utilisation du chiffre 40? Il y aurait bien plus de 30 jours, 25 jours, 38 jours, 40. Si vous prenez une concordance, puis vous regardez 40 partout dans les Écritures, la même idée revient très, 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 très fréquemment et très couramment. 40, c'est un chiffre utilisé dans les Écritures comme symbole d'une période d'épreuve qui se termine par la victoire du bien et la ruine du mal. Voulez-vous des exemples? Moïse qui a monté sur la montagne, il est resté combien de jours? 40 jours. Le Christ, lorsqu'il a jeûné combien de jours? 40 jours. Et après son jeûne, qui a eu la victoire? Le mal ou lui? Alors, c'est toujours une période d'épreuve à la fin de laquelle le bien a la victoire sur le mal. On a aussi la marche d'Israël dans le désert. Pendant combien de temps? 40 ans. Et là, je vous donne trois exemples, mais si vous preniez une concordance et vous regardez 40 dans toute la Bible, vous seriez surpris de voir que le chiffre 40 a toujours quelque chose, une idée qui est rattachée autour de son utilisation. 1 Samuel, chapitre 2, verset 6, nous dit une chose concernant la souveraineté de Dieu sur la vie. L'Éternel fait mourir et l'Éternel fait vivre. Il fait descendre au séjour de mort et il en fait remonter. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe la personne que je regarde dans la salle, qui ont pris moi-même, moi je me vois pas, mais je suis là, il reste que Dieu dit que le nombre de tes jours est déjà déterminé. C'est lui qui les a déterminés. Ce que ça dit, là, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le Seigneur sait la date que je vais mourir. Il sait où je vais mourir, il sait de quoi je vais mourir. Peut-être que je vais mourir à 95, je ne sais pas. Peut-être que je vais mourir aujourd'hui, je ne sais pas non plus. Mais le nombre de mes jours, Dieu l'a déterminé par décret. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Le Seigneur, puisque c'est lui qui nous a donné la vie, a le pouvoir sur la vie de la donner et de l'ôter. Et quand vous regardez le verset 5, on voit une chose, on parle de préparation. L'idée du verset 1 à 9, c'est la préparation. Donc, le verset 5 nous parle d'une préparation qui est attentive, parce que ça dit « Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné ». Imaginez-vous à l'époque construire un bateau de cette grosseur-là. Et là, il fallait que tu te souviennes, il a dit 300 coudées, il a dit, il fallait que tu mesures, il fallait que tu sois sûr, trois étages, tout ce que le Seigneur avait dit, il fallait que, un peu comme si tu avais le plan, tu serais le maître d'œuvre, tu as le plan devant toi, puis tu exécutes ce qui est sur le plan, là, pas n'importe quoi. Là. Un peu comme le tabernacle, quand le Seigneur a voulu faire construire le tabernacle, pourquoi il y avait tant de précision? C'est parce que toutes ces choses-là symbolisaient l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, ça avait une raison d'être, toute cette précision-là. Alors, quand on regarde comme il faut le texte, les quatre premiers versets nous parlent de la part de Dieu. C'est Dieu qui va faire les choses. Il dit, rentre, je vais faire pleuvoir, je vais exterminer tout ce qu'il y a de la terre. Puis dans le verset 5, on voit la part de l'homme. Parce que c'est Noé qui l'a construit, l'arche. Dieu ne l'a pas, il aurait pu lui donner miraculeusement. Construire une arche, une seconde, il l'aurait mis là, il aurait dit, rentre dedans. Il a voulu que ce soit fait que de même. Fort probablement pour nous montrer que nous, la même chose, on a reçu la grâce, Christ, on a à annoncer Christ. C'est sûr que le Seigneur, s'il voudrait, il pourrait toutes les cellules là, sur la terre, il pourrait toutes les sauver tout de suite d'un coup de chèque et ça arrêterait là. Il a voulu que les choses tournent dans leur chose normale. Et nous, il nous dit qu'on se doit d'avertir autour de nous parce qu'il s'en vient des jugements. Alors, il exécutait tout ce que Dieu lui avait redonné. Aimeriez-vous ça qu'en arrière de votre nom, ça dirait « exécuta tout ce que l'Éternel lui a ordonné ». Moi, j'aimerais vraiment ça. Mais à cause de notre faiblesse, on n'exécute pas toujours tout ce que le Seigneur nous commande. Mais ici, c'est intéressant de voir que Noé a exécuté. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu une marche en faille, qu'il n'a pas péché durant tout ce temps-là, mais ça donne au moins l'orientation de la conduite de sa vie en général, de sa marche chrétienne. Alors ici, Noé se montre pour nous un modèle exemplaire d'obéissance. Quand le Seigneur nous donne d'agir en tout temps, comme ce serviteur, obéissance immédiate, complète et attentive et persévérante au commandement du Seigneur. Parce que nous autres aussi, nous en a donné des commandements. Matthieu 28, c'est un commandement. Faire des disciples autour de nous, parler de lui, répandre la bonne nouvelle, parler de l'Évangile. Quand on se regarde, on se dit, « Ouais, je vais le faire un petit peu, peut-être que je pourrais le faire plus. » Je pense qu'il n'y a pas personne d'entre nous qui peut dire, « Tout ce que je fais, je suis content de ce que j'ai fait. » Oui, mais on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus quand il s'agit de servir le Seigneur. Versets 6 et 7, c'est une préparation qui est précise. Très intéressant, ce passage-là. Et pensez-vous qu'avec le passage où on nous dit l'âge de Noé, qu'on peut déterminer la date exacte que c'est arrivé? Oui. Noé était âgé de 600 ans quand le déluge eut lieu, verset 6, et que les eaux vinrent sur la terre. Noé entrait dans l'arche, et ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils avec lui, à cause des eaux du déluge. Les Écritures nous donnent des précisions sur le moment du début du déluge en nous mentionnant l'âge de Noé. 600 ans, ça commence par un 6, donc c'est le chiffre de l'homme. 2 zéros en arrière. Alors, les 600 ans, c'est vraiment un chiffre d'homme pour nous montrer que Dieu... Et d'après les érudits de la chronologie biblique, il se serait donc passé 1656 ans depuis la création. Vous savez la grosse carte qu'on a mise en bas, ceux qui l'ont vue? Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, je vais aller voir sur ma carte. J'ai regardé le début de la création, j'ai regardé le moment où que Noé est rentré dans l'arche, 1656 ans. Le chiffre est exact. 1656 ans qui s'étaient passés depuis le début de la création jusqu'au moment où Dieu a décidé de détruire l'humanité. Alors, le chiffre 6, c'est souvent utilisé dans la Bible pour parler symboliquement de souffrance ou de période d'affliction. Le sixième sceau, l'Apocalypse, la sixième trompette, la sixième coupe, les souffrances de Christ. Regardez bien les passages. C'est parce que des fois, les chiffres, on passe par-dessus, on tire pas toute la moelle qu'il y a à l'intérieur de ça. Luc 23, verset 44. « Il était environ la sixième heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. » Durant 3 heures. Mais il nous dit que les débuts des ténèbres ont commencé à la sixième heure. Les Écritures, les chiffres des Écritures veulent toujours dire quelque chose. Mais c'est constant. Et si on se met à lire les Écritures avec cet état d'esprit-là, il y a des richesses qui en ressortent qu'on n'aurait pas vues autrement. Et les Saintes Écritures ne nous laissent aucun doute quant au nombre de personnes qui furent épargnées de la mort par le déluge. On a la mention là, mais dans le Nouveau Testament, c'est dit que sur la population qu'on évalue, selon les spécialistes, à plusieurs millions de personnes de l'époque, il y en a combien qui ont été sauvés? 8. Ça a-tu de quoi nous faire réfléchir un petit peu, ça? 8 personnes, pas beaucoup. Hein? Le Seigneur dit que les élus, peu d'élus, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Alors, dans 1 Pierre 3:20, ça se dit « Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. » Donc, le Nouveau Testament nous confirme que sur l'ensemble de l'humanité qui existait à l'époque, les animaux, tout ça, il y en a 8 et les animaux qui étaient dans l'arche qui ont été sauvés. 8. Et dans Hébreux 11, verset 7, ça nous dit « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors, on vient de nous parler de l'élément qui était important pour Noé et sa famille. Ça a été vraiment l'obéissance. Croire ce que Dieu lui avait annoncé et travailler en conséquence pendant autant d'années, c'est presque incroyable que quelqu'un commence une œuvre de cette envergure-là puis qu'il travaille dessus sans arrêt pendant 120 ans sur la foi, sur la base que tu crois ce que Dieu dit. Il y a vraiment une leçon importante pour nous là-dedans aujourd'hui. Et versets 8 et 9, on a vraiment une préparation qu'on pourrait qualifier de providentielle. Parce qu'il y a une mention qui est dit, là, des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs, des oiseaux et de tout ce qui rentre sur la terre, deux par deux, mâles et femelles, entrèrent vers Noé dans l'arche. Ça laisse sous-entendre que tout s'est fait dans l'ordre, que tout s'est fait selon une chronologie. Ça laisse entendre que c'est Dieu qui contrôlait l'esprit des animaux pour que ça puisse se faire dans une si brève période de temps. Alors, le Seigneur a conduit les animaux par impulsion divine. Qu'est-ce que c'est pour le Seigneur de contrôler les esprits des animaux? On pourrait prendre de multiples exemples dans les Écritures où il nous montre ces choses-là. Et dans le verset 10 à 16, donc dans les premiers 1 à 9, on a la préparation au cataclysme. Dans les versets 10 à 16, on a la préservation du cataclysme. Parce qu'autrement dit, les neuf premiers versets nous montrent qu'il y avait toute une préparation à faire avant que le cataclysme arrive. Mais regardez bien à partir du verset 10, donc on a vraiment la préservation que Dieu avait prévue pour son peuple qui s'exécute. 7 jours après, qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Dans 7 jours, ça va arriver. Donc on voit, 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Et ça, ici, c'est intéressant. Là. Verset 11, comme je vous l'ai dit tantôt, on passe souvent par-dessus, on ne réfléchit pas nécessairement le temps de l'année, pourquoi c'est cette date-là. Il donne des dates précises. Tu dis, pourquoi il donne une date précise? Aucune idée. Il dit, l'an 600 de la vie de Noé. Là, il aurait même pu dire, ça aurait été suffisant. Non, non. Le second mois. Le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent, la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Donc, il y a le séjour durant lequel la porte est ouverte encore. N'est-ce pas? Alors, il y a une exécution qui est gracieuse. Malgré tout, le Seigneur reste la porte ouverte encore pendant 6 jours. Et c'est très important, cette date-là, parce que vous allez voir, c'est relié avec un autre événement tantôt que je vais vous partager. Et là, je capotais littéralement quand j'ai lu ça. Je vais aller ici. On est en train de dîner. Il dit, hey, je viens de découvrir quelque chose d'extraordinaire. On est en train de dîner, puis là, j'y partageais mes affaires. Le mois, si on regarde dans un calendrier juif, là, je te mélange un peu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous commencez à regarder les mois, dans le calendrier juif, il y a deux choses qui se passent. Lui, il dit que c'est le deuxième mois. Tu regardes dans un calendrier juif, fais une recherche Internet, calendrier juif, et il disait que le mois ici, le mois Marchesvan, était le 7e mois. Il dit, bon, comment ça se fait? Ça se peut pas, ça, là? D'un qui dit 2e, l'autre dit 7e, jusqu'à ce que je découvre que les Juifs avaient une façon de calculer le temps. Une qui était basée sur le Seigneur, l'année religieuse, et un autre qui était basé sur l'année civile. Dans l'année, si tu tiens compte de l'année religieuse, le deuxième mois, c'est vraiment le mois de Marchesvan. Donc, on calcule, ce serait à peu près au mois de novembre. Ce serait le 17 novembre 1656. Spécial. Mais ça, c'est pas tout. Là. Quand on va arriver à l'autre date tantôt, si quelqu'un qui ne s'émerveille pas devant ça, là, c'est parce qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas compris. Donc, le 17 novembre, et donc, il se serait passé, on a parlé de 1656 tout à l'heure, hein, pas 1700. OK, 656. Après la création de la terre. Pour que le verset 2 Pierre, chapitre 3, dans le Nouveau Testament, les versets 6, nous dit que, et que ce fut par ces choses, il parlait de l'eau dans le contexte, là, ce fut par ces choses que le monde d'alors périt, tout le monde. Submergé, quand on est submergé, ça veut dire que l'eau, là, on en a par-dessus sa tête. Submergé par l'eau. Alors, on peut... C'est sûr qu'il y a beaucoup d'ostination. Si vous allez sur Internet, vous regardez, les inconvertis vont essayer de dire que non, c'était pas un déluge global, c'était pas un déluge universel. Ils ont leurs arguments. Mais si tu crois Dieu, je peux vous dire que vous êtes gagnant au départ. Hein, si vous êtes sûr que vous allez avoir raison sur le long terme. Parce que c'est ça qui se passe. Dieu a détruit l'humanité et tout ce qui était vivant. Et bien sûr, on pourrait rentrer dans les détails, mais je pense qu'on rentrerait dans les détails scientifiques et je pense que je vous ennuierais à mourir. Alors, j'ai décidé plutôt de croire que ce que Dieu dit. Et le gigantisme de ce que Dieu dit, est-ce que vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire quand il nous dit les sources du grand abîme jaillirent et après les écluses des cieux s'ouvrirent? Ça veut dire que l'eau, jaillir, ça veut dire que c'est littéralement en anglais, là, c'est « all the fountains of the great deep broken ». Ça, ça laisse sous-entendre que c'est la croûte souterraine qui s'est ouverte, où il y avait des sources d'eau, que ça l'a éclaté et que l'eau le niveau d'eau a augmenté terriblement par en bas. Et souvent, on pense que c'est juste par la pluie d'en haut, mais c'est les deux. Le Seigneur a permis que l'eau arrive par en bas. Toutes les fontaines du grand abîme jaillirent ou éclatèrent. En anglais, c'est « broken », c'est vraiment la croûte terrestre qui brise pour laisser sortir l'eau. Et quand on parle de ce que ça dit, les écluses des cieux s'ouvrirent, quand on le lit en français, on le voit pas. Mais les commentateurs qui connaissent l'hébreu disent que quand ils parlent de pluie, des écluses des cieux qui se rouvrent, ça contient l'idée de pluie littéralement torrentielle. Je ne sais pas si vous avez déjà été poigné dans une pluie torrentielle. Je n'ai pas vu beaucoup dans ma vie. J'en ai vu une fois. On s'en allait aux États-Unis. Puis il a tombé une pluie, là, tellement forte que j'avais jamais vu ça de ma vie. Je suis rendu à 69 ans. Quand tu parles d'un torrent, là, quand l'eau tombe, là, c'est pas une pluie, là, les petites gouttelettes, mais ça tombe, là, c'est comme si tu ouvrais une cuve, là, d'un coup sec comme ça, puis ça tombe là, comme une cassée pour assommer le monde en bas. Là. Alors, c'est ça qui se produisait. Là. Le Seigneur permettait que la croûte où il y avait des sources souterraines, ça jaillisse comme une fontaine et que ça tombe par en haut des pluies torrentielles. Une journée, ça aurait été déjà épeurant, mais 40 jours et 40 nuits. Et là, ça commence à être un phénomène. Alors, ceux qui ne croyaient pas, là, au bout de la première journée, ils ont peut-être commencé à se poser la question, « Ouais, mais peut-être qu'est-ce qu'ils nous disaient, c'était peut-être vrai. » Vous voyez l'eau monter. Mais quand l'arche a commencé à être soulevée, là, c'est sérieux, là. Il y a dû avoir du monde qui a essayé de monter sur l'arche, ça doit, j'imagine. Alors, 40 jours et 40 nuits, c'est important de savoir que l'eau venait d'en haut et d'en bas. Et que c'est Dieu lui-même qui permettait autant que ça arrive par en haut, autant que ça jaillisse par en bas. Alors, dans le verset 13 à 16a, on voit, en ce même jour-là, Noé, Cam et Japhet, fils de Noé, et la femme de Noé, et les trois femmes de ses fils avec eux, entrèrent dans l'arche. Eux, et tous les animaux, selon leur espèce, et tout le bétail, selon son espèce, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, selon son espèce, et tous les oiseaux, selon leur espèce, tout petit oiseau, tout ce qui a des ailes, ils entrèrent donc vers Noé dans l'arche, deux par deux, de toute chair qui a souffle de vie. On dit deux par deux parce que c'était la première chose que Dieu avait dit, mais on sait qu'à cause du fait qu'il leur a dit sept des animaux purs, c'est sûrement qu'ils étaient inclus là-dedans. eux et ceux qui vinrent, vinrent mâles et femelles de toute chair, comme Dieu lui avait commandé. Il y a des expressions dans le texte qu'on ne peut pas voir en français. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant quand on va étudier un petit peu plus en profondeur. Comme quand vous lisez au début du verset 13, vous lisez une expression qui n'a pas l'air à première vue de dire grand-chose. « En ce même jour-là », ça veut dire quelque chose, mais ça ne va pas aussi profond que le texte veut dire dans l'original. Voici ce que ça veut dire dans l'original. Si tu traduirais littéralement « en ce même jour », il faudrait que tu traduises « dans l'os », en anglais, c'est « in the bone or strength or essence ». Quelle idée que ça veut véhiculer? Ça veut tout simplement véhiculer que le Seigneur a permis que ces choses-là arrivent ce jour-là, mais pas n'importe quand dans le jour, pas à minuit, pas à 10 heures du soir, en pleine à midi. C'est pour ça qu'il dit « the bone of the day ». « The bone of the day », c'est vraiment pour exprimer la force. Dieu a voulu que le début de toutes ces affaires-là arrive dans la force du jour. Pourquoi? Pour le témoignage. Il voulait que tout le monde voit que j'ai dit que ça va arriver et ça l'arrive. Et ça véhicule l'idée que c'était d'une évidence que Dieu jugeait là. Moi, après, quand j'ai vu ça, the bone of the day, tu peux pas traduire dans l'os du jour, c'est comme là, tu seras obligé de faire à peu près comme 6 pouces de commentaires en bas pour comprendre. Mais quand tu lis ce que les commentateurs disent que ça veut dire dans l'hébreu, autrement dit, l'idée, c'est que le Seigneur a choisi le moment du jour où ça devenait le plus. C'est comme s'il choisissait à midi, en plein soleil, tout le monde voit, tout le monde est conscient. Et le but de ça, c'est vraiment le témoignage. Pour que l'action se voit, qu'elle soit visible et observable au grand jour et de façon publique. Il aurait pu faire comme ça à minuit, puis il n'aurait rien changé. Il a voulu que ça se fasse en plein jour. Moi, quand on lit « en ce même jour-là », si vous avez vu ça, vous êtes meilleur comme moi, parce que moi, je l'avais jamais vu. Fait que là, quand j'ai étudié ce texte-là, j'ai dit « ah, c'est flyé, ça ». Autrement dit, l'idée que dans l'original, alors c'est de là l'idée que quand on étudie la Bible, c'est sûr la traduction a fait son mieux, là, mais dans l'original, il y a toujours des richesses qu'on ne voit pas en première vue dans le texte. Alors, le moment d'entrée de Noé et de sa famille correspond à l'idée que l'action se veut visible et observable au grand jour, et de façon publique. Alors, on constate par le fait même l'exactitude de l'accomplissement de la prophétie divine. Là, je suis rendu au deuxième point, puis il me reste un paquet de choses. J'avais prévu une heure, mais je pense que ça va me prendre deux leçons pour la donner. C'est vraiment pas grave, parce qu'il y a tellement de stock là-dedans, je voudrais pas j'aime pas ça moffer le texte. Il y a des choses importantes, je veux vous les dire. J'ai dit 24 versets. Au début, je me suis dit, peut-être que je prends mes bouchées trop grandes. Mais ce n'est pas plus grave que ça. On va faire la leçon 24, qui va être la deuxième partie de ce verset. Alors, on va terminer là-dessus. Alors, Seigneur, on veut te remercier de nous avoir montré certaines richesses qu'on voit à l'intérieur du chapitre 7 de la Genèse, qui est une richesse. Alors, Seigneur, merci pour la Bible, qui est tellement riche et profonde. Permet qu'on soit de plus en plus attentifs et portés à vouloir les étudier pour en découvrir toute la beauté, toute l'harmonie, toute la richesse, et qu'on puisse être transformé. Je vous demande toutes ces choses en Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.